Et 1, et 2, et 3, troisième défaite électorale pour la gauche depuis l'arrivée de François Hollande à l'Élysée, la gauche qui laisse à la droite les deux tiers des départements français. Troisième claque donc, mais à qui la faute? Eh bien à chacun son coupable. La faute à nos divisions, a tenté d'expliquer hier l'exécutif. La faute à la politique du président et du premier ministre qui nous ont coupé de notre électorat, a tonné l'aile gauche du Parti Socialiste. Bon, mais maintenant, que faire pour reprendre une vieille, une très vieille question? Maintenir le cap jusqu'à obtenir des résultats concrets a immédiatement assuré Manuel Valls. Changer de politique, ont rétorqué les autres, en proposant qui un contrat de rassemblement, qui une nouvelle alliance populaire, mais sans les socialistes, qui une alliance de gauche avec les écologistes, mais sans le parti de gauche, autant dire que pour le rassemblement, c'est pas encore gagné. Alors, que peut et que doit faire la gauche, selon vous, notamment pour garder une chance de ne pas être balayée à la présidentielle de 2017? On attend vos idées, vos questions à nos invités au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux franceinter.fr, Facebook et sur Twitter avec le hashtag Telson.
France Inter, Hélène Jouan, le téléphone sonne.
Bienvenue à toutes et à tous au téléphone sonne ce soir. Nos invités pour répondre à vos questions, Eduardo Riancipel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député de Seine-et-Marne et porte-parole du Parti Socialiste. À vos côtés, Barbara Pompili, bonsoir.
Bonsoir.
Députée de la Somme, présidente du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée Nationale. Vous sortez, je crois, d'un rendez-vous avec un certain nombre de membres de votre parti, avec le numéro 1 du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis. Alors, pour ne rien vous cacher, je n'ai pas très bien compris ce qu'il en était sorti. En gros, Jean-Christophe Cambadélis sort et dit « Le dialogue est renoué ». Et la numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts, Emmanuel Cos, dit « On ne peut pas continuer sur le discours, rien ne change ». En gros, vous êtes tombé d'accord sur le fait que vous n'étiez pas d'accord ou il y a quelque chose qui a avancé un peu plus quand même?
Non, ce qui a avancé, c'est que le Parti Socialiste semble se rendre compte, et ça c'est une bonne chose, que si on veut avancer, il faut que la majorité qui a été élue en 2012 s'élargisse à nouveau. Elle est trop réduite aujourd'hui.
Elle est fracturée, parce qu'en gros, il n'y a plus que les socialistes aujourd'hui.
Y a plus que les radicaux.
Les radicaux.
Elle est fracturée. Il faut aujourd'hui, si on veut envisager qu'en 2017, la gauche ne soit pas balayée, il faut réapprendre à parler, à travailler ensemble. Et puis, nous, on attend, et vraiment, on l'attend très fort, que le président de la République dise très vite qu'il a entendu le message des Français. Et le message des Français, il n'arrête pas de l'envoyer, c'est « on a besoin d'une inflexion de cette politique ».
Alors, on va en parler évidemment tout au long de l'émission. Également avec nous en studio, Éric Coquerel, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire national du Parti de Gauche, conseiller régional d'Île-de-France. Alors hier, Jean-Luc Mélenchon a lancé un appel à une nouvelle alliance populaire. Ça comprend qui, la nouvelle alliance populaire? Tout le monde, sauf le Parti Socialiste?
Ça comporte tous ceux qui critiquent ou s'opposent à la politique du gouvernement. Parce que, j'entendais Barbara Pompili, le problème c'est que François Hollande a répondu. Il n'y aura pas d'inflexion. Donc à partir de là, il faut essayer de rassembler...
Manuel Valls a répondu, pas encore François Hollande.
Oui, enfin, Manuel Valls l'a dit, François Hollande l'avait dit dans un interview du Point il y a quelques temps. Donc au contraire, ça va empirer. Donc l'idée, c'est de rassembler tout ce qu'on a commencé à rassembler sur ces élections départementales. On a été en alliance Front de Gauche, bien sûr, Nouvelle Donne, Europe Écologie, avec aussi des tentatives d'implication citoyenne. Voilà, il faut continuer. D'ailleurs, ça a marché. On en discutera peut-être tout à l'heure.
On va en discuter parce qu'effectivement, ce n'est pas l'avis de tout le monde. On attend évidemment les questions maintenant des auditeurs et des auditrices de France Inter.
France Inter, le téléphone sonne.
J'ai entendu ce message, leur exigence de résultats concrets. Mon gouvernement continuera d'y répondre sans relâche.
J'ai beaucoup de dépit ce soir et je dis, le sursaut c'est urgent. Voilà. Sinon, s'il n'y a pas de sursaut, ce soir, ça n'aura été qu'une répétition générale de ce qui va nous arriver en 2017 si on continue pareil. On ne peut pas continuer comme ça, franchement.
Intervenez 01 45 24 7000 sur la page Facebook du Téléphone Sonne et sur Twitter avec le hashtag Telson.
Manuel Valls et Jérôme Guedje, pour ceux qui ne les auraient pas reconnus. Nous avons en ligne Jean-Robert. Bonsoir Jean-Robert.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de Villeneuve-d'Ascq. Bienvenue, on vous écoute.
Oui, bonsoir, d'Anstin plus précisément, sur le côté de Villeneuve-d'Ascq. Voilà, écoutez, j'ai été militant du Parti Socialiste pendant 40 ans, de 1974 à 2014, et lorsque Manuel Valls a été nommé, lorsque j'ai vu cette politique prétendument socialiste tourner à libéral-socialisme, j'ai rendu ma carte. Je ne pouvais plus supporter ce contresens pseudo-socialiste qui reniait ses valeurs, les valeurs que nous avait défendues François Hollande dans sa profession de foi pour la présidence de la République. J'ai connu cette époque où on a eu les 35 heures, j'ai connu cette époque en 81 où on a eu la retraite à 60 ans, j'ai connu cette époque où la classe ouvrière ou les classes moyennes n'étaient pas méprisées, négligées comme c'est le cas actuellement. Et je ne m'étonne pas, si vous voulez, que ces classes populaires s'éloignent de la base de gauche traditionnelle, de cette base qui était le programme commun de 1981 du Parti socialiste, du Parti communiste, des radicaux de gauche. Actuellement, on a vraiment l'impression que ce gouvernement est quasiment le même que celui de Nicolas Sarkozy.
Donc à la question « Que faire, Jean-Robert ?», on a compris. Qu'en gros, il faut qu'il fasse un virage à 180 degrés pour répondre à ce que vous attendez aujourd'hui.
À 360 degrés.
À 360, 360 degrés. Il revient sur lui-même. Alors, 180, au moins, il fait demi-tour.
Les retraités, les fonctionnaires dont le point d'indice est gelé depuis je ne sais combien d'années, etc. etc. Et on fait des cadeaux au patronat, on fait des cadeaux aux entreprises. Donc, tout ça est devenu insupportable et je m'étonne qu'à moitié que les gens se tournent vers le Front National. Mais... À titre d'exemple, et j'en termine là-dessus.
On va laisser nos invités répondre, oui, je vous en prie.
Je termine. Lorsque j'étais gamin, dans la commune d'Hénin-Beaumont, ça vous dit quelque chose, commune qui s'appelait Hénin-Liétard, le Parti communiste de Jacques Duclos faisait 7% au présidentiel en 65. Et actuellement, on a les nazis aux portes du pouvoir.
Merci voilà. Jean-Robert. Marine Le Pen aux portes du pouvoir. Donc, une première interpellation. On entend le sentiment de trahison éprouvé par Jean-Robert. Édouard Dorian-Sipel, secrétaire national du Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Jean-Robert ?
Oh, beaucoup de choses. Il me faudrait même... un peu de temps, mais je vais essayer d'être succinct. D'abord que nous ne sommes plus en 1981, nous ne sommes plus de ce temps historique et politique. Depuis, les choses ont évolué dans notre pays et dans le monde. Ce n'est pas du tout le même contexte international et français, ne serait-ce que parce qu'il y a l'euro, ne serait-ce que parce qu'il y a une Union européenne et monétaire beaucoup plus avancée, et que nous devons trouver des solutions nouvelles. Mais sur, par exemple... des choses symboliques que François Mitterrand avait faites, comme la retraite à 60 ans, qui a été démolie par la droite, le gouvernement de Nicolas Sarkozy et de M. Fillon. Eh bien, nous avons rétabli la retraite à 60 ans pour les personnes qui ont commencé à travailler tôt. Moi, je n'ai même pas les
pas
chiffres.
Pas pour tout le monde, pour les autres, ça s'est allongé quand même, la durée de cotisation.
C'était juste de le faire. C'est-à-dire ceux qui ont travaillé tôt, les catégories populaires, les ouvriers. Et je donne juste un chiffre, parce que dans ma circonscription en Seine-et-Marne, à Torcy-Bussy-Saint-Georges, Roissy-en-Brie, ou même à Torigny, les gens me le disent, merci, parce que ça, c'était juste. 150 000 personnes ont pu partir à la retraite à 60 ans. En 2013, je n'ai même pas les chiffres de 2014.
Alors, ils vous disent merci, là, ceci dit, hier soir, on a bien entendu, au deux tours des départementales...
Moi, je ne suis pas dans le déni. Ce qu'il dit sur le plan des catégories populaires et du pouvoir d'achat, parce que le problème, il est dans le pouvoir d'achat. Ce n'est pas en haussant le SMIC à 1 500 euros qu'il n'est pas possible de le faire sans avoir une méga croissance. Mais je crois qu'il y a un vrai sujet sur le pouvoir d'achat des catégories populaires et des classes moyennes. C'est ce que nous avons commencé à faire en 2014. Que nous allons continuer en 2015. Il est vrai, il y a un sujet pouvoir d'achat pour les classes moyennes inférieures et les catégories populaires. Je crois que c'est l'enjeu de l'année 2015 et d'ici la fin du quinquennat, ça je partage avec lui. Mais moi j'ai un sentiment.
Pas l'impression que ça suffise complètement à Jean-Robert pour le satisfaire.
Peut-être pas, mais
on va laisser les autres invités répondre.
Déjà, peut-être quitter le bord, mais c'est marginal. Hein, les personnes qui ont quitté le Parti Socialiste, on reste avec des gens extrêmement stables en termes de militants. Et pardon. Les résultats d'hier, même s'ils sont très durs et qu'il s'agit d'une défaite pour la gauche et pour le PS, elle est moins importante que ce que nous avions prévu. On résiste assez bien.
Donc
on est à
30
départements. Non, mais je ne suis pas aussi déçu que je pensais qu'on allait l'être.
Éric Coquerel.
Bon, ça, on voit le coup de com', quoi. Les électeurs, ils ont remercié effectivement le Parti Socialiste de manière massive. Perte de la moitié des départements, quasiment. Perte de la moitié des conseillers départementaux et... une baffe absolument magistrale. Tout à l'heure, vous l'aviez dit, ce n'est pas la première élection. Il y a 4 élections de suite. Et en plus de ça, sur la loi Macron, il n'y a même plus de majorité à l'Assemblée pour voter la loi Macron. On est obligé de passer par le 49-3. Bon. Donc, soit on continue à nier comme ça, et apparemment, Hollande va, c'est monsieur Rien Sipel va continuer à le faire, la situation économique de ce pays. C'est-à-dire l'idée, effectivement, que depuis les années 80, les profits d'aujourd'hui font les profits d'aujourd'hui font les emplois de demain et que le tout marché est positif, et qu'en plus de ça, il faut imposer une politique d'austérité. Bien, si on continue, dans 2 ans, il y aura toujours plus de chômage. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que François Hollande, qui avait expliqué qu'il se représenterait le chômage baissait, eh bien, peut préparer ses bagages. Bon, je crains malheureusement que ça soit le cas pour le Parti Socialiste. Fort heureusement, dans cette élection, je le dis parce que d'emblée, parce que ça n'a pas été précisé, le Parti Socialiste subit une défaite cinglante. Il y a quelque chose d'absolument désolant qui est la victoire de la droite et la montée de l'extrême droite. Mais dans ce contexte, parce qu'il n'y a pas une gauche comme ça, le front de gauche, qui plus est quand il est allié avec Europe Écologie, lui, non seulement maintient ses résultats, puisque nous avons beaucoup moins perdu, par exemple, nous venons de gagner 3/4 des duels que nous avions dimanche, contre, alors que le Parti Socialiste en a perdu la moitié. Donc le front de gauche connaît un certain rebond.
Il n'y a pas de dynamique quand même, pardonnez-moi, il n'y a pas de dynamique en faveur d'une nouvelle alternative à gauche.
Non, ça n'existe pas, c'est le résultat des élections. C'est ça que montrent les élections.
Je pense que rien n'existe.
De manière claire et nette.
Mais ils pensent même que le tripartisme existe. Nous pensons que c'est une escroquerie. D'abord parce que la moitié des électeurs s'abstiennent, donc faisons attention.
Ah oui, mais ceux qui votent, à un moment donné, la démocratie, c'est ça. C'est bien triste, il y en ait 15 sur 2.
Et celui d'électeurs qui n'ont plus confiance dans les politiques. La deuxième chose, c'est que je vous signale, ça n'a pas été assez dit, c'est qu'en gros, le front de gauche, et notamment quand il était allié avec Europe Écologie, fait à peu près 11% de moyenne au premier tour, et que là, nous avons au deuxième tour, c'est une bonne surprise, on ne s'y attendait pas autant que ça, mais nous avons seulement perdu 25% de nos conseillers départementaux, et nous avons même, face au Front National, gagné 30 duels quand le Front National en gagnait un.
Donc il y a une certaine résistance.
Nous ne sommes pas satisfaits, mais c'est des jalons pour l'avenir sur lesquels nous pouvons construire.
Barbara Pompili, pour Europe Écologie Les Verts.
Alors, je serais peut-être la plus pessimiste de tout le monde ici, mais non, 50% des électeurs se sont abstenus. Ça veut dire clairement qu'ils ne voient pas d'espoir et que non plus les expériences à la gauche de la gauche n'ont pas donné les résultats que certains pouvaient espérer. Et je m'en désole parce qu'à la limite, il y aurait un espoir quelque part, tant mieux. Sauf que ce que je crois vraiment, c'est qu'aujourd'hui, le Front National, maintenant, est un incontournable. Alors, il va falloir faire 2 choses. Il va falloir lutter sur le long terme contre le Front National, c'est-à-dire faire en sorte qu'il perde progressivement la place qu'il a acquis. Et ça, c'est très important. Et la question économique est essentielle, mais je signale aussi que l'extrême droite monte partout en Europe et y compris dans des pays qui vont bien. Donc la question économique, évidemment, la question économique est essentielle, mais elle n'est pas la seule. Il y a une question aussi de valeur, il y a une question d'identité, il y a toutes ces questions-là sur lesquelles nous, on ne s'est jamais penché. Il va falloir qu'on s'y penche parce que le Front National répond à ces questions-là très mal, de manière caricaturale, à nous de faire aussi notre travail. Mais sinon, sur ce qui concerne aujourd'hui, quand on voit les scrutins majoritaires, ce n'est plus un duel droite-gauche, c'est 3 pôles. Et face à ces 3 pôles, il faut qu'on se rende compte qu'on est obligé de trouver les moyens de l'union.
C'est bien le rassemblement, mais vous l'avez dit, vous faites un rendez-vous, en gros vous êtes d'accord pour dire que vous n'êtes pas d'accord.
Non. Mais trouver les moyens de l'union, ça veut dire, aujourd'hui, il y a urgence. Moi, je ne me satisfais pas de l'idée que la gauche soit exclue du pouvoir à partir de 2017. Pour ça, il faut que chacun fasse son petit examen de conscience et que chacun apprenne à retravailler ensemble. Le Parti Socialiste, c'est le plus gros parti de la gauche. Il a une énorme responsabilité là-dedans. Il doit faire le rassemblement. Et évidemment, nous aussi, on a à faire ce travail. Mais encore une fois, le Parti Socialiste et notamment le Président de la République ne peuvent pas faire comme s'il ne s'était rien passé depuis les dernières élections.
Eduardo Rion-Sipel, et puis on reprend un auditeur tout de suite après.
Il faut être très lucide sur le résultat de ces élections. Elles disent quelques enseignements majeurs. Évidemment que c'est une grosse défaite pour la gauche dans son ensemble et pour les socialistes. Elles montrent une énorme percée du Front National, malgré aucune conquête de département par le parti de Mme Le Pen. Ne nous faisons aucune illusion sur le sujet. C'est très inquiétant, c'est mon inquiétude principale. Et troisièmement, la division de la gauche a été mortelle. Et si on continue à nous diviser à gauche, ce sera criminel. Et l'autre enseignement de cette élection,
c'est une politique de droite.
L'autre ensemble. C'est d'ailleurs pour cela que nous ne le faisons pas, M. Coquerel. Si. Et par conséquent, continuer sur le chemin de la division, c'est conduire à la défaite. Je vous donne l'exemple d'un canton dans ma circonscription à Torigny. le candidat socialiste arrive à 18%, troisième éliminé du premier tour. Si la gauche s'était rassemblée, elle serait première à 38% devant l'UMP,
mais
devant
si la gauche
national.
Était d'accord entre elles, elles seraient unies.
Et
là,
la dernière
après, la question, c'est de savoir pourquoi leçon, elle arrive effectivement.
La dernière
divisée.
Leçon de ce scrutin, c'est qu'il n'y a pas d'alternative à la gauche de la gauche. Il n'y a pas d'alternative sans le Parti socialiste. Autant Europe Écologie Les Verts sont prêts à travailler avec nous. Et pardon, ils ne se sont pas réunis pour dire qu'ils étaient en désaccord. Ils se sont réunis et le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts ont mis en place 4 groupes de travail pour opérer ce rassemblement. Autant le Parti Communiste Français est aussi d'accord pour discuter avec nous, mais malheureusement, du côté de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis, ils veulent la destruction du Parti Socialiste.
Alors on va
et c'est criminel
si vous
parce
bien
que c'est laisser le champ libre au Front National.
On a le porte-parole du Parti Communiste Europe Écologie en face de nous, pas celui du Parti Socialiste, mais manifestement, il parle pour toutes les forces, y compris celle du Front de Gauche.
Alors
c'est
vous voulez
drôle.
La destruction du Parti Socialiste.
Non,
très vite,
non,
parce qu'après, je voudrais
juste,
que les auditeurs
peut faire
de France
dire
Inter
au résultat,
retrouvent la parole.
Je vais vous donner 2 autres exemples qui montrent que cette histoire de division à gauche n'est pas l'alpha-oméga, surtout quand on nous demande en réalité de nous rassembler derrière Manuel Valls qui fait une politique de droite. Chacun comprendra que la gauche ne peut pas se rassembler derrière un gouvernement qui fait une politique de droite. Sur l'Île-de-France, il y a 2 départements qui ne passent pas à droite. La Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne de notre ami Christian Favry. Ce sont 2 départements où le Front de Gauche avait été autonome partout au premier tour. Il y a un département où la droite remporte une éclatante victoire, c'est l'Essonne, où là, pour le coup, nous n'avons pas réussi, parce que nos camarades communistes étaient sur notre base, à faire l'autonomie au premier tour. La Lozère, dont vous avez parlé tout à l'heure, il y avait des listes d'union, Europe Écologie, Front de Gauche, citoyenne, et c'est passé à gauche. Donc vous voyez bien que...
On n'est pas encore tout à fait sûr ce soir, on va voir.
Non, mais
on va
chacun
voir le
donne cet
tour,
exemple. Mais enfin... cette démonstration qui laisserait dire que la seule solution, c'est d'être derrière un candidat, évidemment toujours socialiste, qui défend la politique du gouvernement pour battre la droite et l'extrême droite, c'est une solution suicidaire.
Hubert nous appelle de Normandie. Bonsoir Hubert.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Vous m'entendez ?
Oui, on vous entend très bien.
Oui, je suis... Encore une fois de plus, effaré par ce que j'entends. Vous avez 3 personnes autour de vous qui sont soi-disant des personnes de gauche, qui n'ont pas su faire le rassemblement, l'alliance avant de se présenter devant les électeurs. Résultat, c'est la Bérézina. Je trouve que c'est lamentable. Ça montre le niveau de nos politiques d'être incompétents à se mettre autour d'une table, à discuter ensemble et à dire voilà, on doit se battre contre la droite. On doit se battre contre l'extrême droite. Vous avez souligné tout à l'heure, il y a une personne des Verts qui a souligné tout à l'heure qu'il fallait que le Front National était incontournable. Je suis désolé, c'est vous qui l'avez rendu incontournable. C'est vous les responsables. C'est vous les politiques. C'est vous les responsables de ce gâchis. C'est énorme, vous m'écœurez. Et moi, je vous dis ça parce que je suis de gauche. Vous voyez, je me suis arrêté, ça fait 10 minutes que j'attends. Je me suis arrêté pour vous dire que vous m'écœurez. C'est simple.
Vous avez voté, Hubert ? Est-ce que vous avez voté, Hubert ? Vous avez voté ?
J'ai voté au premier tour. Bien sûr, j'ai voté au premier tour. Bien sûr, bien sûr. Mais au deuxième tour, j'ai respecté ce qu'a dit Sarkozy. Ni. Je n'ai pas été voté pour la droite et je n'ai pas été voté pour le Front National qui était en face. Voilà pourquoi je suis écœuré, parce que le socialiste n'était pas là au deuxième tour. Et ben moi, je suis désolé. C'est vous, les politiques, qui êtes responsables de ça. Par contre, moi, j'ai respecté ce qu'a dit Sarkozy. Il a dit qu'il fallait faire ni. Moi, j'ai fait ni la droite, ni le Front National. Ça, c'est très clair.
Merci Hubert. On a entendu évidemment votre colère. Qu'est-ce qu'on peut répondre et qu'est-ce que vous pouvez répondre ? C'est vous les responsables, dit Hubert. Barbara Pompili.
Je suis persuadée que tant qu'on donne un spectacle de politiciens qui se bagarrent entre eux pendant que les Français sont dans des difficultés, c'est évident que ça ne va pas bien se passer. Aujourd'hui, c'est la gauche qui est au pouvoir. Bientôt, ça va être la droite si on ne change rien. Donc, si la gauche... dans toute sa diversité, n'est pas capable.
Vous dites dans toute sa diversité, mais Hubert a raison, vous êtes tous les 3.
Non.
Alors
non, mais je vais vous dire,
socialiste,
moi, ce qui s'est passé dans la Somme, parce que nous, dans la Somme, on a un Front National qui est très puissant. Et voilà, donc ça, nous, on le vit au quotidien. On a réussi à travailler ensemble et à faire une alliance qui comprenait le Parti communiste, les Verts, les socialistes et les radicaux. C'était une alliance large. On n'a pas réussi à avoir le PG qui n'a même pas appelé au second tour au vote alors qu'on avait du Front National partout au second tour. Cette alliance-là, elle a permis d'abord de sauver les meubles, mais encore une fois, S'unir, pour moi, c'est une condition absolument indispensable. Donc, il faut qu'on trouve les moyens d'union. Mais elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire que si on s'unit juste sur le principe de s'unir, ça ne sera pas suffisant et on l'a vu. Il faut aussi qu'on retravaille ensemble pour redéfinir des politiques communes, notamment sociales, notamment écologiques. On a vu aujourd'hui que l'enjeu écologique est essentiel. On a une année essentielle parce que la pollution, ça touche la vie des gens et notamment des plus pauvres,
on
comme par
hasard.
On va en
parler parce que je crois qu'on a effectivement
donc,
des questions.
Donc, encore une fois, moi, j'appelle à ce qu'on réussisse à travailler ensemble, aujourd'hui, tout de suite, parce que, encore une fois, en 2017, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer quand ce sera Sarkozy qui sera revenu.
Monsieur Rien Cipel.
Je crois qu'il faut entendre ce que vient de dire notre auditeur sur son écœurement et que je partage en grande partie. Les électeurs de gauche qui veulent voir la gauche représentée à tous les niveaux, au département, au national, à l'Assemblée, n'ont pas envie d'être pris en otage par des appareils politiques qui refusent de se rassembler pour je ne sais quelle histoire. Je crois aujourd'hui que ceux qui veulent se rassembler doivent répondre à l'attente des électeurs. Quel est l'électeur écologiste qui ne voulait pas voir d'écologistes dans les départements? Quel est l'électeur communiste qui ne voulait pas voir des communistes dans les départements? Et pardon Hélène Jouan, si on a été capable de se rassembler socialistes et écologistes dès le premier tour, en Seine-Saint-Denis, dans le 93, pourquoi ce n'était pas possible ailleurs au premier tour? Si ces mêmes candidats PS, Europe Écologie Les Verts, se sont ensuite rassemblés au second tour avec les communistes et le Front de Gauche en Seine-Saint-Denis, comme dans le Val-de-Marne. Pourquoi ce n'était pas possible au premier tour? Qui peut comprendre cela? À un moment donné, quand on a une situation nouvelle, avec un Front National autour de 30%, soit on joue la démolition de la gauche tous les jours, ou alors on se dit, il y a peut-être danger, rassemblons-nous et on se met autour d'une table. C'est le sens de la démarche de Jean-Christophe Cambadélis, quand il a immédiatement appelé les écologistes. Bientôt, je crois que les communistes viendront, parce qu'au sein du Front de Gauche, il y a des différences.
Le
Front de Gauche, il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon.
Et le Parti de Gauche,
alors? Il y a le Parti communiste français. Je crois qu'ils ont donné une fin de non-recevoir avec Jean-Luc Mélenchon dès dimanche soir. C'est leur responsabilité. Et je crois que les électeurs ont montré la voie. Ils disent « Rassemblez-vous ». Nous voulons être représentés. On ne veut pas être pris en otage par des appareils politiques qui n'appellent pas au rassemblement alors qu'il y a un danger Front National. Quel est l'électeur de gauche, quel qu'il soit, qui ait envie, Hélène Jouan, de se retrouver à la fin avec l'UMP et le Front National, et ce, d'autant plus que l'UMP ressemble de plus en plus au Front National.
Monsieur Rien Cipel est long parce qu'il fait les questions et les réponses. Donc déjà, il interprète ce que va faire nos partenaires communistes. Je peux lui annoncer que ça ne sera pas le cas.
C'est-à-dire que Pierre-Laurent ne se rendra pas à l'invitation
en
de Jean-Christophe.
Je ne sais pas s'il ira ou il n'ira pas, mais en tout cas, nous avons discuté à midi avec Pierre-Laurent et notre position est claire. C'est celle justement d'un rassemblement pour les prochaines élections citoyens et qui réunit tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement et non pas le fait de partir derrière le panache de M. Cambadélis ou de M. Valls. Moi, il y a quelque chose qui me gêne dans la discussion, cette espèce de mécano politicien où on agite tout le temps la peur du Front National. Voilà. Et puis, au nom de ça, il faudrait l'unité de gens qui défendent des politiques différentes. Moi, je me bats pour des idées. Voilà. Je ne me bats pas comme ça pour sauver des places, etc. Surtout qu'en plus, ça ne marche pas. Parce que le problème, c'est que quand vous faites une politique qui développe du chômage, qui développe de la désespérance, qui fait en sorte que les gens n'y croient plus parce que leur décision, eh bien, elle est contournée dès lors que les promesses ne sont pas appliquées. Je vous rappelle, par exemple, que M. Hollande avait dit qu'il ne signerait pas le traité européen qui, aujourd'hui, nous impose de faire un budget d'austérité. Bon, dès lors que l'on fait ça, on ne peut faire en sorte que développer le Front National. Donc, nous, ce qu'ils ont, c'est qu'il doit y avoir un débat d'idées. Bon, et on voit bien que, contrairement à ce que dit Barbara Pompili, il n'y a pas trois pôles. Bon, à gauche, il y a ceux qui refusent, qui sont, par exemple, qui acceptent la Ve République, ceux qui sont pour la Sixième, nous en sommes. Ceux qui appliquent les politiques d'austérité, ceux qui proposent des relances d'activité, ceux qui pensent qu'on va relancer l'économie toujours en favorisant les revenus du capital, ceux qui pensent au contraire qu'on doit augmenter
donc
les salaires.
Donc aujourd'hui, vous dites qu'on n'a rien à voir avec la politique qui est faite par Manuel Valls, et donc
bien sûr,
l'idée
c'est
de rassemblement...
En quoi diffère-t-elle de la politique
depuis
de M. Sarkozy?
Est-ce que vous pouvez me dire ainsi
sur les budgets d'austérité, sur les retraites, sur la loi Macron ou les syndicats contre lesquels les syndicats vont manifester le 9 avril. Et on verra là aussi qu'il n'y a pas une seule gauche dans ce pays, parce que la gauche sociale sera derrière les syndicats. Donc on voit bien qu'il faut un débat d'idées et que si nous continuons à appliquer et à laisser penser qu'on peut être derrière la politique menée par le gouvernement, je peux vous annoncer effectivement que Marine Le Pen a des beaux jours devant elle.
France Inter, le téléphone sonne. Intervenez au 01 45 24 7000.
beaucoup de messages sur Twitter qui reprennent l'auditeur Hubert, qui vient de pousser un coup de colère en disant « Bien parlé Hubert, moi aussi je suis de gauche et moi aussi je déplore tout ça ». Nous sommes en ligne avec Patrice qui nous appelle de la Meuse. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, bienvenue.
Voilà, ma question, c'est pour relancer la dynamique d'une véritable gauche, quelles mesures fortes sur le plan environnemental et économique le PS peut-il proposer à ses partenaires écologistes ? Je rejoins un peu le désarroi du précédent auditeur. Je pense que réduire le chômage, c'est vrai que c'est difficile, que ce soit à droite ou à gauche. Mais être honnête, c'est possible et c'est un devoir. Vous avez de nombreux électeurs de gauche et d'écologistes qui ont été fortement déçus par le comportement de compromission du PS avec des lobbies. Quand la démocratie est dévoyée, on est en droit d'attendre un minimum d'honnêteté intellectuelle de la part du PS. On vient d'avoir des élections départementales. Alors prenons un exemple très simple. Dans mon département de la Meuse, ce département a été choisi d'un commun accord PS-UMP-PC pour devenir une poubelle nucléaire sous l'impulsion d'un député PS, le député Bataille, avec une stratégie de corruption des consciences locales. Du coup, il n'y a pas eu d'accord PS-Vert dans la Meuse, à juste titre, pour dénoncer cette corruption. Dernièrement, vous avez des associations qui ont porté plainte contre ce phénomène, contre l'ANDRA, qui gère les déchets nucléaires. Pourquoi ? Parce que dans ce département, on considère que l'ANDRA a triché, elle a caché à l'ensemble des gens qui habitent dans le bassin parisien qu'il y avait des possibilités de géothermie. Et fait incroyable, vous avez un jugement du tribunal de Nanterre qui dit les associations n'ont aucun intérêt à porter plainte, ce qui est même impensable.
Alors moi, on va revenir sur le sujet ce soir quand même, Patrice.
Non,
il y a quand même...
Moi, je veux pas de baratin. Est-ce que le PS est prêt à abandonner ce scandaleux et fou projet d'enfouissement des déchets nucléaires ? Voilà, pas de baratin.
Alors, pas de baratin. Eduardo Riancipel, c'est pour vous.
Oui, j'ai pas cette réponse à l'instant, mais il faut regarder. La question du nucléaire, elle doit être traitée. Mais pour revenir avec Europe Écologie, ils ont des demandes extrêmement précises. D'ailleurs, il y a un groupe de travail qui vient d'être créé à la suite de la rencontre avec Emmanuel Cosse, Jean-Christophe Cambadélis, Barbara Pompili était avec nos autres représentants des groupes, notamment sur la question écologique. La transition énergétique est une priorité, la transition écologique, il y a la conférence climat, il y a des points de rassemblement. Personne ne fera croire aux Français qu'il n'y a pas de point de rassemblement pour opérer le rassemblement. Il faut être ouvert à la discussion. Moi, je suis d'accord pour ouvrir le dialogue et il est bienvenu avec tout le monde. Ne faisons pas semblant qu'il n'y a pas de... En réalité, Hélène Jouan, pour résumer les choses. Certains à gauche ont voulu jouer le jeu d'une nouvelle stratégie en vue de 2017, une autre alliance que celle avec le Parti Socialiste. Ça a été le jeu de Jean-Luc Mélenchon, ça a été en partie le jeu de
c'est
Cécile Duflot.
C'est pas du jeu.
Ça a été un jeu, c'est-à-dire une tentative stratégique. Elle a échoué.
Il y a
elle
aussi a de fait des vraies différentes idées. On va quand même donner la parole à Barbara Pompili.
On ne peut pas faire semblant que le Parti Socialiste n'existe pas alors que tout seul, nous représentons 25% de la gauche.
Oui, mais tout seul, vous n'arrivez ni à sauver, les départements, ni éventuellement à être présent au second tour de la 2017.
C'est une réalité qu'attendent nos électeurs.
Ce monsieur pose une question qui est essentielle et qui est une question démocratique essentielle, qui est la question du poids des lobbies. Et il est vrai, aujourd'hui, qu'à l'Assemblée nationale, il y a des lobbies très puissants qui œuvrent pour empêcher de faire bouger certaines choses. Alors, c'est souvent dans le domaine économique, par exemple, pour protéger les grands groupes, c'est vrai, mais aussi sur les questions écologiques, c'est vrai que là, ils sont extrêmement puissants, et notamment sur les questions énergétiques. Et on voit aujourd'hui, par exemple, qu'ils sont à l'œuvre pour détricoter la loi de transition énergétique, qui était pourtant le fruit d'un compromis, qu'on avait réussi à travailler ensemble, et c'était un bon compromis. Tout le monde se disait qu'on avait réussi à avancer, notamment sur les objectifs de réduction de la part du nucléaire. C'est pas juste pour faire plaisir aux écolos, c'est qu'une vraie politique énergétique, elle doit prendre en compte l'avenir. Et l'avenir, notamment, c'est les renouvelables, c'est l'efficacité énergétique, la sobriété, bref, je passe ça. Aujourd'hui, les lobbies sont à l'œuvre pour tout démanteler. Face à cela, il faut être fort, il faut avoir du courage politique et il faut avoir une armature. Cette armature-là, c'est l'accord qu'on a passé ensemble en 2011 pour 2012. Cet accord-là, si ça ne tient pas, tout est mort. Donc nous, on a demandé, là, aujourd'hui, que sur ces questions-là, on ait une réaffirmation très claire que sur la loi de transition énergétique, on va revenir à l'équilibre de voter
de la
à
loi,
l'Assemblée nationale,
la qui
a été détricotée au Sénat. que des engagements comme la fermeture de Fessenheim, par exemple, soient là, suivis des faits, c'est-à-dire qu'on ait un échéancier, et que sur la pollution, par exemple, avec les particules, qui est plus ce manque de cohérence totale où on dit qu'il faut lutter contre la pollution et qu'on ne met pas en place la circulation alternée, qu'on vote la loi de transition énergétique mais qu'on arrête la taxe poids lourd, tout ça, ça rend illisible la politique du gouvernement, et nous, on veut absolument travailler pour qu'il y ait une lisibilité et qu'on avance enfin sur ces questions sur lesquelles on ne peut pas attendre que d'un seul coup, tout le monde revienne à la raison. Il faut qu'on avance. On a la conférence sur le climat très importante. Je rappelle que la pollution, ça tue des gens aujourd'hui. Hein, les particules, les pesticides. Moi, je ne me contente pas de rester les bras croisés à regarder ce qui se passe, à regarder les gens s'engueuler. Je veux qu'on agisse.
Alain nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonsoir Alain. Oula, oui. Vous êtes dans votre voiture, Alain, on vous écoute.
Oui, voilà, allô, oui, bonsoir, bonsoir France Inter, bonsoir à tous vos invités.
Bonsoir.
Oui, voilà, de quoi on parle en fait? On parle du discours du Bourget, parce que normalement François Hollande, voilà, s'il a pris une gifle aux élections, c'est un peu à cause de ça. Mais à l'heure actuelle, au 21e siècle, est-il encore possible de lutter contre la finance qui a une mainmise sur le monde économique? Moi, j'ai bien peur que non, parce que lorsque vous regardez ce qui s'est passé en Grèce avec Syriza, qui pour moi était un formidable espoir, j'ai dit peut-être qu'en Europe, il va y avoir une inflexion de la politique économique, mais en fait, on s'aperçoit que Syriza, c'est juste un feu de paille et que le monde économique, la finance, a verrouillé le système, quoi. Voilà, je vous remercie.
Merci Alain pour votre témoignage, Éric Coquerel. En fait, finalement, s'il n'y avait pas d'alternative à la politique d'austérité telle que vous la dénoncez, au libéralisme, comme disait Alain.
Alors, vous savez, c'est vieux depuis... Depuis Mme Thatcher, elle essayait de faire croire qu'il n'y avait pas d'alternative, c'est le fameux TINA. Bon, mais ce que dit notre auditeur est intéressant, parce qu'effectivement, nous avons un souci, c'est que à force de reniement, effectivement, il parle de François Hollande, disant...
Et du discours du Bourget, voilà, à mon ennemi, c'est la finance.
Je m'oppose à la finance, et puis pour faire une politique tout à fait différente, nos concitoyens, et je pense que c'est ça qui explique l'abstention, ont l'impression que on ne peut plus rien faire. On ne peut plus agir contre la finance. Nous pensons que ce n'est pas quelque chose qui vient du droit naturel, c'est quelque chose qui est politique. Alors, il parlait de Syriza, je veux quand même le rassurer un peu. La Grèce est dans une situation, on voit bien, où les marges de manœuvre sont très compliquées. Et pourtant, la résistance dont fait preuve Syriza aujourd'hui, par exemple dans les mesures qu'il propose sur une réforme fiscale qui s'appuie sur faire payer les plus riches, une réforme fiscale juste, sur le fait effectivement de lutter contre la corruption, sur le fait de prendre des premières mesures pour les plus pauvres dans le pays, des mesures qui vont très très loin par rapport à ce qu'ont fait les gouvernements sociodémocrates et de droite en Grèce qui ont plié par rapport à Berlin et à Bruxelles. Ce qu'a fait Syriza dans un pays qui n'a pas de marge de manœuvre prouve que si nous avions, nous, la volonté, la France qui est la deuxième puissance économique en Europe...
Ça, c'est pas gagné encore pour la Grèce, on va
oui,
voir.
Oui, d'accord, mais... Ce que je veux dire par là,
c'est qu'il
y a
des marges
de manœuvre que nous pourrions avoir pour essayer de bousculer le rapport de force en Europe. Le problème, c'est que nous ne le faisons pas. Et si nous ne le faisons pas, c'est que nous rentrons, et M. Hollande l'a fait, eh bien, j'allais dire sous les fourches caudines, une certaine pensée unique qui laisse penser depuis 20 ans qu'il n'y a pas d'autre issue que le tout marché et puis cette politique de l'offre qui est en train d'asphyxier l'économie. Voilà le problème que nous avons devant nous.
Eduardo Jean-Cipel.
Il y a beaucoup de confusion et beaucoup de mots qui ne renvoient pas nécessairement à des réalités. Je remarque juste, parce que j'ai observé l'autre jour, que M. Tsipras de Syriza était avec Mme Merkel, à dialoguer, à discuter, à négocier avec elle.
Bah, bien sûr, comme il est encore en Europe,
bah oui, mais
dans l'Union européenne.
Il fait comme François Hollande. Il discute avec les partenaires présents.
Si François
et que par conséquent, il y a les discours et puis il y a la réalité derrière. Moi, j'ai soutenu Tsipras parce que le PASOK est mort. Ce n'est pas le cas de la France. Et moi, je veux bien qu'on parle d'austérité. Mais si c'était vraiment l'austérité comme en Grèce, hein, eux l'ont vécu, comme les Espagnols, on serait peut-être pas chez vous, Hélène Jouan, parce que la radio, elle aurait été fermée.
Vous avez raison, on n'en est pas encore là.
Fermée. En Grèce, il n'y a plus de télévision publique, il n'y a plus de radio, il n'y a plus rien. Et les salaires ont été diminués par un quart. Un quart des Grecs vivent sous le seuil de pauvreté. On ne peut pas comparer la même situation. Et franchement, quand on a débridé sur le déficit public, même si on a une bonne nouvelle à 4%, finalement pour l'année 2015, on n'est pas des fous furieux de la réduction de la dépense publique pour la réduire. On essaye de faire les choses intelligemment, justement sans austérité. Et je trouve assez indigne qu'on utilise ce mot à tort et à travers quand il y a des gens qui en ont véritablement souffert. Ça ne veut pas dire qu'en France, il n'y a pas de la souffrance. Il y en a, j'en rencontre tous les jours. Il y a, je le répète, un problème de pouvoir d'achat. Notre gouvernement et notre majorité doivent y répondre. Et je le dis, j'ai envie d'y répondre avec les partenaires de gauche, avec mes amis et camarades. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se divise pour laisser le terrain libre à la droite et surtout à l'extrême droite. Soyons à la hauteur de la situation politique qui, à mon sens, est historique dans notre pays avec cette montée terrible de l'extrême droite.
Barbara Pompili.
Oui. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer ce qui se passe en Grèce et ce qui se passe en France, ne serait-ce que par respect pour tous les gens qui souffrent en Grèce, même si aussi en France, on a des gens qui souffrent. Moi, à Amiens, j'en ai vu trop. Et donc, on doit prendre ça à bras-le-corps. Sur la finance, alors, il y a du positif, il y a du moins positif. Le positif, c'est qu'on réussit enfin à ébaucher quelque chose contre l'exode fiscal, contre la fraude fiscale, et on réussit à récupérer des gens qui partaient à l'étranger grâce aux échanges...
18 milliards par an.
Voilà, 18 milliards, c'est pas rien, grâce aux échanges d'informations entre les banques, et on voit que ceux qui pratiquaient ce genre de choses sont en train de commencer à avoir peur, ce qui me rassure. Un autre point, on avait une mesure que l'on prône depuis des années qui s'appelle la taxe sur les transactions financières, qui permet de taxer justement toutes ces transactions
taxe
très rapides.
Là, le but, c'est de la mettre voilà, en place au
voilà,
niveau évidemment européen.
Toutes ces transactions qui sont faites comme ça sur quelques secondes qui n'aident pas du tout l'économie productive. Je regrette, et là par contre je le dis clairement, que la France ne joue pas un rôle plus moteur dans la mise en place de cette taxe. Elle a un rôle à jouer.
Moi,
et vraiment, j'appelle
à ça. C'est quelque chose qui peut d'ailleurs nous rassembler.
À ce que ce soit fait.
D'accord avec ça.
Et ce serait vraiment là montrer qu'on a un rôle moteur. Et vraiment, si ça peut arriver, ce serait une bonne chose.
Il faut qu'on se batte et il faut qu'on se rassemble pour le faire. Si la gauche est divisée, elle n'y arrivera pas.
Mais
les propositions...
Vous savez que c'est la gauche, enfin le gouvernement socialiste qui a refusé justement ce qui était proposé au niveau de la taxe en Europe.
On va juste laisser la dernière question à une auditrice, à Jacqueline, qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir, Jacqueline.
Oui, bonsoir, Hélène Jean.
Bonsoir, on vous écoute.
Oui, moi, c'est une réflexion personnelle d'une personne qui a 67 ans passé, qui a toujours voté à gauche, qui est une vieille de 68, qui a toujours voté effectivement à gauche. Cette fois-ci, je ne suis pas allée voter dimanche. Parce que j'en veux un peu au Parti Socialiste, c'est vrai. Mais je n'accepte pas qu'on le conteste comme on le conteste en ce moment et qu'on fasse un Hollande-Achille comme on le fait. Tout le monde oublie la situation dans laquelle était la France en 2008. Tout le monde oublie les subprimes. Tout le monde oublie les dettes qu'a fait M. Sarkozy. Tout le monde oublie l'attitude du patronat qui prend les bénéfices, qui n'investit pas dans l'industrie et qui participe au chômage.
Mais ça n'a pas suffi, Jacqueline, à vous faire déplacer lors des deux tours des départementales, néanmoins.
Alors, ce qui m'a empêché de me déplacer, c'est la division de la gauche. J'en ai vraiment assez.
Toute la gauche, Jacqueline, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous voyez dans la gauche qui devrait se rassembler? C'est qui?
Mais c'est l'union de la gauche. Moi, je pense qu'effectivement, après, on peut discuter des problèmes, on peut avancer ses pions, on peut essayer de convertir les gens et de discuter à l'intérieur du parti. Mais se diviser, donner ce spectacle à la population et aux gens, littéralement, qui sont viscéralement à gauche, je vous assure qu'on en arrive à un moment d'écœurement où on se dit « c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils veulent, où on va ?»
Merci Jacqueline. Écœurement, c'est quand même un mot alors qu'il a déjà été prononcé. Désolation, je n'en peux plus.
Ben oui, moi ça ne m'étonne pas.
Mais face à la division de la gauche.
Ça ne m'étonne pas.
Je l'entends tous les jours, Hélène Jouan. Pas de tous.
Ça ne m'étonne pas. Oui, mais
un mot de la fin.
Est-ce que vous vous rendez compte de la situation du pays ?
Attention.
Barbara Pompili qui commence.
Quand il y a des séparations, quand il y a des divisions, la faute est partagée. Et moi, je souhaite que chacun fasse son examen de conscience et qu'on puisse retrouver les voies pour travailler ensemble. Mais pour ça, ça demande vraiment qu'il y ait des efforts qui soient faits. Et quand on a un président de la République qui dit « je ne changerai rien », ce n'est pas un bon message. Donc moi, j'attends vraiment qu'il y ait un autre message, un message qui dise « on se rassemble et on retravaille tous ensemble sur des bases communes ».
Vous avez 5 secondes chacun, ça va être très très dur. Éric Coquerel ?
Non, une première chose, c'est que la situation dans le pays est dramatique. Le chômage, la pauvreté, l'écart des richesses ne cesse d'augmenter, il n'y a que les profits qui continuent à monter. Donc pour répondre à Jacqueline, c'est malheureusement la même politique appliquée. La deuxième chose, c'est qu'il faut effectivement être capable d'être crédible. Et pour être capable d'être crédible, nous devons, nous, être capable de rassembler tous ceux qui s'opposent à cette politique pour faire en sorte, au deuxième tour, d'être en capacité de proposer une alternative dans les élections à venir.
Eduardo Rudancipel.
Il faut entendre ce que dit Jacqueline, c'est très vrai.
Et vous rassembler.
C'est-à-dire que ce qui est écœurant, c'est la division. Et nous avons besoin de nous rassembler parce qu'ils l'attendent et c'est possible.
Merci, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Dans quelques instants, on retrouve le Flash avec Laurence Thomas.